Bienvenue dans Les Étoiles s'expriment. Aujourd'hui, on donne la parole à des élèves qui réfléchissent au monde qui les entoure. Comme Victor Hugo l'a fait en son temps, il et elle questionnent la société à travers leurs mots. Pour ce débat, trois groupes d'élèves du Collège Blanqui, dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux, prennent la parole. Trois questions, trois regards croisés sur le monde. Ici, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des idées, des échanges et des voix qui comptent. Place au débat.
Premier sujet, première prise de parole, avec Elikia, qui aime les jeux vidéo et qui déteste la grammaire, Zoé, qui aime la danse mais déteste les mensonges, Victoria, qui aime nager mais n'aime pas trop l'eau pétillante, David, qui aime patiner et déteste le chocolat, et Waina, qui aime voyager et déteste la trahison.
À la volonté du peuple, dont on n'étouffe jamais la voix.
Victor Hugo disait dans Les Misérables: je ne me crois pas le droit de tuer un homme, mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. Alors je vous pose la question, presque 200 ans plus tard après l'écriture de ce texte, comment faire pour supprimer les génocides dans le monde? Déjà pour vous, pourquoi les génocides existent encore aujourd'hui?
À mon avis, les génocides existent encore aujourd'hui, c'est parce que il y a beaucoup de malentendus dans le monde ou des personnes qui veulent le territoire des territoires et ça crée une guerre et forcément ouais. Des génocides, des choses comme ça.
Moi je pense que ça se base sur de la haine et du racisme, donc c'est parce qu'il y a de différents types de personnes et il y a des personnes qui détestent d'autres groupes ou d'autres religions ou d'autres origines. Et donc c'est pour ça qu'il y a des...
Donc les différences quelque part.
Oui.
C'est un problème politique, humain ou un autre?
Franchement, avec tous les exemples de tous les génocides, ce serait humain et politique et un peu tout quoi. Enfin, pour par exemple les Juifs, c'était plutôt racisme humain. Israël, Palestine, c'était plutôt politique, je dirais. Non, c'est même pas un génocide ça.
Si,
ah si, c'est un génocide, d'accord. C'est un génocide par rapport au territoire. Il y a aussi les Rwandais, les génocides rwandais, du Rwanda, pardon, qui était aussi du racisme, hein, contre les humains. Ouais.
Le génocide se base sur du racisme, et voilà.
Et est-ce qu'on peut vraiment les empêcher totalement, vous pensez?
Non, jamais. Non.
Tant qu'il y a des différences.
On a tous des avis différents.
Donc vous pensez que les génocides dureront genre jusqu'à ce que la race humaine s'éteigne?
Bah oui. C'est possible. Oui. Parce qu'on sera jamais d'accord sur tout ensemble.
Il y aura forcément des personnes qui vont causer des génocides ou vouloir en faire.
Et qui est responsable selon vous, les dirigeants, les peuples?
Les dirigeants. Les dirigeants.
Non, c'est les dirigeants qui.
C'est les dirigeants
qui du coup.
Qui ont toute la responsabilité.
Oui, qui commandent le peuple, on va dire.
Et donc c'est eux qui leur font penser s'il y a un génocide ou pas?
Non, je suis pas d'accord.
Mais ils leur transmettent un peu leurs opinions.
Bah, il y a souvent des gens dans le peuple qui est d'accord avec avec ça, donc du coup, c'est pas forcément que le dirigeant qui va leur donner des...
C'est le dirigeant un peu qui les dirige, c'est un modèle
forcément
pour eux et,
ouais.
et du coup, s'ils sont plus influencés par des dirigeants
quoi.
Que par
je veux dire,
quelqu'un
Hitler,
du peuple que c'est pas connu par eux.
Après, des fois, ils sont sous dictature, hein, donc des fois, ils sont un peu obligés à se battre contre, contre les Juifs, par exemple, les Allemands, par exemple, ils étaient peut-être un peu obligés de les exterminer un peu.
Donc, enfin, ça dépend de lui.
Donc tu penses que c'est les autorités allemandes à cette époque, tu penses que tous les Allemands n'étaient pas nazis?
C'est parce qu'il y avait la propagande que ça leur a donné les mêmes idées que Hitler.
D'accord. Et vous pensez que c'est valable pour tous les génocides ou seulement pour celui du coup de la Shoah là en l'occurrence?
Mais après pour Hitler, le peuple il savait pas tout ce que Hitler faisait aux Juifs. Il me semble qu'il avait caché les preuves, donc il savait qu'ils allaient dans des camps extraits pour juifs, tout ça, mais pas qu'ils allaient dans des chambres à gaz, qu'on les traitait mal, enfin que tous les trucs comme ça, ça a été caché, je crois.
Mais donc, forcément des rumeurs.
Donc toi, tu penses que c'est...
Donc,
le peuple n'y est pour rien, quoi.
Enfin, je pense que le peuple, il déteste peut-être des races, mais pas jusqu'à les tuer. Je dirais que c'est plutôt les dirigeants qui poussent les gens à les tuer, justement. Enfin, je veux dire, les dirigeants lancent le génocide et le peuple le suit, mais enfin, je veux dire, tout ça, c'est un peu caché, je dirais.
Et est-ce que vous pensez que l'éducation peut changer les choses ou...
Ah ouais, complètement.
Oui, enfin,
oui, complètement.
Oui, souvent dans l'environnement dans lequel tu as grandi ou même la mentalité que de tes parents, bah, tu vas avoir des opinions différentes.
Ou en grandi.
Vu que là vous êtes tous d'accord pour dire que c'est les dirigeants et pas les peuples.
Enfin si, les deux. Enfin, bah, les dirigeants les deux. Vont faire du mal, mais les peuples vont juste détester. Enfin juste.
En aidant à avoir du libre arbitre, du recul, prendre du recul. Par exemple, si un dirigeant nous dit de faire quelque chose, pas forcément écouter.
D'accord, donc c'est grâce au libre arbitre. Et toi, Elika, tu penses que l'éducation te permet d'avoir un libre arbitre, c'est ça ?
Oui, ça peut, oui.
Parce que, enfin, je veux dire, la plupart des méchants, je dirais, ils ont une enfance difficile. Enfin, j'ai remarqué. Hein. Ils ont une enfance difficile, on les a pas forcément montré comment faire, enfin je veux dire en grandissant, donc forcément ils sont mal, on va dire, et donc ce mal-être ils le
suivent.
Ouais, voilà.
Ouais, mais après il y a plein de gens qui sont mal dans la vie et ils deviennent pas des dirigeants qui font des génocides.
Mais tout le monde, on va dire, extrait son mal-être à sa manière, et du coup je pense, enfin.
Oui.
Hein.
Ouais.
Et du coup, il y en a qui font des génocides, du coup.
D'accord, mais par exemple, si on reprend l'exemple, par exemple, du génocide des Juifs, bah déjà les enfants, ils étaient obligés un peu de suivre les traces, enfin, de ce que Hitler disait sur les Juifs. Et donc, par exemple, il y avait plein de propagande sur les Juifs, comme quoi ils étaient pas beaux, ils étaient moches, du coup, et ils étaient dangereux, par exemple, par la société. Et voilà.
Bah, l'école, ça peut être aussi un lieu pour, endoctriner, on va dire.
Ouais.
Parce que Hitler, il se crée des espèces de camps pour enfants pour les faire adhérer
à sa pensée.
Oui. Oui.
Et est-ce que vous pensez que chacun de nous, du coup, a un rôle à jouer là-dessus ?
Oui, je pense. Par exemple, le harcèlement, ça peut changer des personnes. Et donc, si jamais le harcèlement, un jour, enfin, peut-être pas arrêter complètement, c'est impossible, mais juste diminuer, ça fera moins de santé mentale détruite, des trucs comme ça, et donc moins de méchants ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, chacun peut arrêter, on va dire, de faire du mal aux autres, essayer juste un peu de mal aux autres, critiquer ou juste harceler ou juste taper. Enfin, je sais pas, c'est pas juste, mais pas tuer. Enfin, tuer, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais je veux dire. Ouais, je suis juste en arrêtant. Ouais, voilà, mais en arrêtant juste de faire ça, je pense que ça peut changer beaucoup de vies. Les faire grandir, on va dire, dans un
certain bien-être.
Ouais, voilà, exactement.
Pour ne pas devenir des futurs dirigeants qui créeront des génocides, c'est
oui,
ça ?
Ouais. Oui.
À part l'éducation, donc l'école et tout ça, comment chacun d'entre nous peut jouer un rôle pour que les gens aillent bien ?
Là, en tant que jeune, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose, mais en grandissant, on peut pas parler, je veux dire aller, c'est plutôt entre adultes, je dirais que tu peux faire de grandes choses.
Je vous présente Elena, qui est pas loin de vous, puisqu'elle est au lycée.
Ouais. En fait, je fais partie du collectif de jeunes des centralisations de Bordeaux. Donc, c'est un groupe de jeunes, en gros, qui prépare des activités pour le quartier, voilà, pour tous les publics. Et on voulait faire une activité pour les familles. Et qui soit en rapport avec les questions de genre, de sexualité, tout ça. Et donc c'est l'animateur qui s'occupe de nous, qui nous a présenté de la danse, du coup.
Qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce collectif ?
Je pense que faire partie du collectif, déjà, ça apporte une notion de responsabilité et aussi de savoir se mettre à l'écoute de l'autre. On cherche beaucoup à savoir ce que les habitants du quartier, ils ont envie de voir, ils ont envie de faire, afin de créer nos projets et vraiment d'avoir une place où nous on peut aussi nous exprimer par rapport à ce que nous on a envie de faire, ce que nous on a envie de donner aux autres. Je trouve ça vraiment génial et puis tous les gens qu'on rencontre, finalement c'est vraiment bien parce que par exemple toi, mais il y a plein de gens qu'on rencontre tout le temps grâce au collectif de tout Bordeaux, c'est des jeunes, des animateurs, des intervenants, bref, et ça c'est toujours hyper enrichissant, je pense.
à partir de 18 ans, je pense que c'est l'âge où tu peux faire plein de choses, t'as le droit un peu à tout, et donc du coup tu peux faire plus de choses.
Non, tout dépend de ta mentalité.
Ouais, moi je suis pas d'accord.
Oui, exactement. Parce que tu peux être mature jeune comme plus
jeune. Mais je pense qu'on peut, dès notre plus jeune âge, on peut déjà accomplir des choses entre nous, même entre nous, s'aider à aller mieux, genre on peut le faire, aider d'autres personnes à penser mieux ou à changer les idées.
Oui, évoluer, quoi.
Mais moi, je parlais des grandes choses, genre, par exemple, parler à un tout un peuple, ou des trucs comme ça, prendre les micros, je veux dire, des choses comme ça.
Oui, faire des discours.
Ouais, les grands discours. Enfin, je veux dire, imaginons de faire un métier qui permet d'aider comme ça.
De faire changer les choses.
Oui.
Mais pourtant, il y a quand même, les jeunes, il y a des conseils des jeunes qui sont, par exemple, dans certaines municipalités, et du coup, qui prennent la parole, des gens de votre âge.
Oui, oui.
Mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que plus on est grand, on va dire, en termes d'âge, plus on peut faire plus sensibiliser les élèves ou les personnes harcelées, par exemple.
Plus rien que le fait d'être pris au sérieux, on est plus pris au sérieux quand on est plus grand.
À votre échelle, vous avez l'impression de pas pouvoir faire grand-chose pour le moment. Vous pensez que c'est à quel âge que vous allez pouvoir vraiment prendre part
Je dirais vers 15-16 ans, parce que déjà, je veux dire, quand on s'exprime, c'est surtout sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont interdits au moins de peut-être de 15 ans bientôt.
On sait tous qu'ils sont interdits au moins de 15 ans, mais que...
Oui, je sais, mais je veux dire, vers 15-16 ans, c'est là où t'as bien le vocabulaire pour parler, tout ça, les mots, et donc...
Donc toi, tu penses que juste en un an, parce qu'on est d'accord, t'as 14 ans, là.
J'ai 15 ans.
15 ans, t'as 15 ans, donc tu... C'est bon.
Oui, mais enfin moi, j'ai pas envie de m'exprimer sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de m'exprimer tout simplement. Mais enfin pas dans la vraie vie, oui, mais pas sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Et puis même les élèves, souvent, ils font pas trop gaffe à tout ce qui est santé mentale et tout ça. Mais à partir de 15-16 ans, la plupart des élèves vont évoluer et du coup, ils vont plus entendre tout ce qui est la santé mentale.
Moi, c'est entre 16 et 17 ans.
Non, mais ça, je pense que ça se fait progressivement. Ça vient pas d'un coup, mais...
Progressivement.
C'est la maturité.
Ouais, voilà, la maturité, tout ça. Et quand vraiment tu peux parler à tout le monde, enfin, tu peux le faire dès plus tôt, mais... Enfin, du jeune âge, mais je veux dire, avoir vraiment le droit, par exemple, sur les réseaux sociaux. 12 ans, normalement, t'es pas censé être sur les réseaux sociaux, donc forcément, on va pas trop te prendre au sérieux, alors que quand t'as 15 ans, 16 ans, t'as complètement le droit d'être sur les réseaux sociaux.
Ben moi, je pense que c'est à l'âge où on découvre vraiment la vie qu'on peut... Enfin, qu'on peut essayer d'arranger certaines choses. Je pense pas qu'il y a un âge pour parler. C'est au moment où on comprend réellement...
Conscience des choses.
Oui, voilà, ouais, c'est voilà. Ça.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression, à votre âge, de prendre conscience de certaines choses, d'avoir conscience de certaines choses?
Pas forcément tout, parce que on s'intéresse pas forcément à tous les points de politique.
Mais toi, t'as l'impression d'avoir un besoin de tout savoir pour pouvoir parler sur un sujet?
Non, juste avoir au moins quelques bases. Il faut avoir un avis dessus.
Je pense que le problème, c'est que pour qu'il n'y ait pas de génocide et pas de haine comme ça, faut que ce soit un monde qui est un peu contrôlé. Et c'est pas fou.
Donc toi, tu penses qu'il faut pas de démocratie, c'est ça?
En fait, si tout le monde a le droit de donner son avis, il y a forcément des gens qui vont donner des avis qui vont influencer et mener à la violence.
Mais t'as pas forcément des bonnes intentions derrière.
Si je comprends bien, pour toi, la démocratie amène à la violence?
Pas forcément. Mais c'est possible.
Et l'autoritarisme?
Moi, franchement, si j'étais présidente et que je pourrais changer des choses, j'aurais, on va dire, fait plus de mixité sociale. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais dans les collèges, les lycées, les écoles, de vraiment mélanger tout le monde pour que tout le monde puisse vivre avec tout le monde. Et par exemple, imaginons, on voit pour la première fois un juif, on va pas forcément avoir de la haine envers lui, mais vu qu'on le connaît depuis... qu'on a l'habitude, on va dire, de vivre avec des juifs dans la vie de tous les jours, enfin aux écoles, au collège, au lycée, je pense que ça va faire moins de surprises ou des choses comme ça, et donc du coup moins de mauvaises émotions, mauvais sentiments à son encontre. Et franchement, pour la démocratie, une démocratie, ça permet au peuple de décider tout ça, et donc ça c'est important, je pense, de pouvoir avoir ce droit.
Comment tu ferais pour supprimer les génocides?
J'aurais mis des coups de pression aux autres pays.
D'accord. Donc, diplomatiquement, tu mettrais la pression sur d'autres pays.
Oui.
Et toi, Zoé?
Moi, je pense que je voudrais que les personnes qui se sentent au-dessus, bah, on soit tous égaux, même si on est un grade au-dessus. Par exemple, si j'étais présidente, je me sentirais égale au peuple, parce que c'est quand on se sent supérieur qu'on pense qu'on a plus de pouvoir.
Ok.
Je suis d'accord avec Zoé. On est égaux au peuple. Donc il faudra pas se sentir supérieur ou lui donner des ordres qui pourraient nuire à une société ou un groupe de personnes.
Comment faire pour supprimer les génocides dans le monde?
J'étais donc avec Elikia, Zoé, Victoria, David, Waina qui ont tenté de répondre à cette question.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Bienvenue dans Les Étoiles s'expriment. Aujourd'hui, on donne la parole à des élèves qui réfléchissent au monde qui les entoure. Comme Victor Hugo l'a fait en son temps, il et elle questionnent la société à travers leurs mots. Pour ce débat, trois groupes d'élèves du Collège Blanqui, dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, prennent la parole. Trois questions, trois regards croisés sur le monde. Ici, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des idées, des échanges et des voix qui comptent. Place au débat.
Deuxième sujet, deuxième prise de parole où nous tenterons de répondre à la question « Notre santé mentale peut-elle être impactée par notre appartenance à une minorité ?» Pour en débattre, nous sommes en présence de Lucas qui aime le tennis et déteste les voitures électriques, Milo qui aime la culture et n'aime pas la société, Mila qui aime Alma, sa chienne, et n'aime pas l'hiver, Kenza qui aime les chats mais n'aime pas les souris, Cyrine qui n'aime pas le fromage, mais qui aime la vitesse, et Pénélope, qui aime lire, mais n'aime pas le stress.
Tu n'as rien dit de mal, tu n'as rien fait d'étrange. Comme une vierge meurt, comme s'envole un ange, jeune homme, tu t'en vas. Rien n'a souillé ta main ni ton cœur, dans ce monde où chacun court, se hâte, se forge et crie et gronde, à peine tu rêvas.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Coucou.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi pour vous une minorité?
Pour moi, une minorité, ça va être un groupe d'individus qui va être stigmatisé par un ou plusieurs autres groupes.
Pour moi, c'est plus un groupe de personnes qui est minoritaire. Donc ce n'est pas une majorité dans le monde et pas forcément persécutée ni autre chose.
Donc, d'après toi, Lucas, les femmes ne sont pas une minorité?
Non. Bon, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, donc c'est pas une minorité.
D'accord.
Mais est-ce qu'on peut pas considérer que c'est une minorité par rapport au fait qu'elles ont subi pendant une grande partie de l'histoire des répressions et qu'il y a toujours des inégalités qui existent dans le monde?
Bah, c'est pas une minorité du coup, parce que pour moi il y en a pas moins, mais elles ont peut-être été plus stigmatisées que les hommes.
Et est-ce qu'on laisserait pas parler les femmes pour en parler?
T'as raison, désolé.
Mila, Kenza, Cyrine, Pénélope, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que les femmes sont une minorité, font partie d'une minorité ou pas?
Non, moi je pense pas que les femmes font partie d'une minorité.
Et pourquoi?
Je sais pas vraiment.
Ouais.
Pour moi c'est pas une minorité, mais elles ont subi plus de répression. Oui, moi je pense que c'est difficile parce que on se croit inférieur aux autres souvent. On n'est pas obligé de penser comme ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent comme ça.
D'accord.
C'est surtout la peur du regard des autres.
Je suis d'accord avec Pénélope et Mila.
Moi, je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit aussi. Mais je pense que même si ça peut être compliqué, je pense qu'à des moments, ça peut aussi donner de la force. Le fait d'appartenir à un groupe, ça peut nous dire que on n'est pas tout seul. On peut prendre des grands symboles comme Malcolm X et Martin Luther King, qui étaient tous deux, qui faisaient tous deux partie de la même minorité, et qui se sont tous les deux battus, et qui se sont dit, on va pas se laisser faire.
Passons à la prochaine question. Est-ce que la société peut faire du mal sans s'en rendre compte, d'après vous?
Oui, moi je pense que oui, parce que souvent, en fait, la loi ne va pas avec tout le monde. Forcément, tout le monde n'est pas d'accord avec une loi. Alors forcément, ça va toucher des personnes que d'autres, ça ne va pas toucher.
On vote pour quelqu'un qui va voter les lois, donc logiquement, c'est que la majorité du peuple est d'accord avec ces lois.
Oui, mais la majorité, mais l'autre partie n'est pas forcément d'accord.
Puis surtout, tu dis que la majorité du peuple est censée être d'accord avec ça, mais c'est pas le peuple qui vote, ça va être les personnes qui ont été choisies par le peuple, mais qui vont pas forcément tout le temps avec les idées de la majorité.
Parce que sinon, aujourd'hui, on ne ferait pas un débat. Si on était tous d'accord sur la même chose. C'est pour ça qu'aussi, on fait ça aujourd'hui.
Oui, donc ça peut. Y a des personnes qui peuvent faire du mal à la société puisqu'elles sont pas d'accord avec les lois, donc elles les suivent pas.
Est-ce que vous, dans la société, sans s'en rendre compte, est-ce que vous pouvez faire du mal à quelqu'un d'autre, vous pensez, qui fait partie d'une minorité?
Oui, parce que quand on est petit et tout ça, on a beaucoup de stéréotypes. On est élevé avec des stéréotypes. Et ça peut être difficile de s'en défaire. Et souvent, ces stéréotypes, ils sont défavorables aux minorités. Donc ça peut leur faire du mal, mais nous, on s'en rend pas forcément compte.
Par exemple, pour appuyer Mila, je suis totalement d'accord avec elle. Et on a tous les stéréotypes par rapport aux garçons et aux filles, donc tout ce qui est appartenance à une couleur, tout ce qui est bleu et rose, comme on le voit avec les jouets. Tout ce qui est les garçons doivent être forts et ne pas pleurer, mais par contre les filles sont des êtres sensibles. Il y a tout ça en fait qu'on nous inculque, on va dire dès le plus jeune âge, que même si c'est pas forcément nos parents, ça peut être en fait juste les gens qui nous entourent.
Est-ce que tout le monde est concerné par la santé mentale à un moment ou à un autre d'après vous?
Bah oui, moi je pense que tout le monde est concerné par la santé mentale parce que sans santé mentale, et bah on peut pas exister et il y a forcément un moment dans notre vie où on va se poser des questions sur notre santé mentale et sur la santé mentale des autres.
Donc est-ce qu'il y a un lien spécifique avec les minorités ou pas du tout?
Et je pense que ça peut être lié, oui, mais ça peut en engendrer beaucoup.
Je pense qu'on est tous concernés aussi par la santé mentale et par les problèmes que ça engendre. Parce que tout simplement, ça serait connu si la vie elle était belle et que personne n'avait de problème dans la vie. Même si ça peut être minime, il y a au moins une chose dans notre vie qui va nous impacter, je pense. Et même souvent c'est quotidien, et même si ça peut être des choses minimes, on va tous être concernés.
Je suis d'accord avec Milo. Bah, sur les stéréotypes que bah, les garçons doivent rester forts et les filles bah, doivent... faire leur sentiment et que voilà.
Et du coup, d'après vous, qu'est-ce qui peut aider quelqu'un qui se sent exclu ou qui se sent dans une minorité et qui justement a des problèmes de santé mentale à cause de ça?
Bah, il faut que cette personne voit qu'elle est pas toute seule, que bah si elle appartient à une minorité, ça veut dire qu'il y a d'autres gens avec elle et que même les gens qui n'appartiennent pas à cette même minorité peuvent la soutenir et peuvent partager son combat.
Et il faut aussi en être fier parce que d'être différent de d'autres personnes, c'est aussi bien d'avoir quelque chose en plus, on appelle ça. Et ça nous apporte quelque chose en plus.
Je suis d'accord, ça serait nul qu'on soit tous pareils.
Bah, on est tous différents.
Et c'est ça qui fait notre force.
Bah, être différent, oui, c'est bien. C'est... Tout le monde est différent, donc c'est presque normal maintenant. Enfin, parce que ça n'a jamais pas été normal, mais voilà. Mais appartenir à un groupe et être comme tout le monde, des fois, peut apporter des avantages.
C'est drôle ce que tu dis, être différent, c'est être normal.
Oui.
Parler de santé mentale, vous pensez que ça peut changer les choses dans notre société actuelle?
Oui, surtout pour la santé mentale des hommes, parce que on en parle beaucoup moins.
Alors, je suis d'accord avec Mila sur le fait qu'on parle pas assez de la santé mentale des hommes, mais je pense qu'on parle pas assez de la santé mentale tout court. Tout ce qui est par rapport surtout aux mères, souvent mères au foyer, qui vont devoir supporter énormément de choses et avoir énormément de choses à endurer, on va dire. La grossesse pendant 9 mois, et ça dépend, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent on voit que la mère est quand même plus là et s'occupe plus de son enfant, même si on voit que les choses évoluent de nos jours.
Donc qu'est-ce qui aide à se sentir mieux et à accepter d'après vous?
À s'aimer, à se respecter, aimer, comment expliquer? Parce que déjà il faut trouver qui on est, parce que souvent... À cette période, pendant l'adolescence, c'est très compliqué de trouver qui on est vraiment. Et quand on a trouvé qui on est, le but, c'est de s'accepter et de ne pas avoir honte de ce qu'on fait et de ce qu'on exprime et tout ça.
Je vais revenir sur mon point que j'avais dit tout à l'heure, qu'on sente qu'on est soutenu, écouté et entendu, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui, parce qu'on voit que si c'était le cas, il y aurait plus de manifestations. Mais faut qu'on voit qu'on n'est pas seul.
Et aussi, je voulais revenir sur un point, c'est une sorte de petite conclusion.
Ouais.
Pourquoi on dit qu'on accepte ces personnes, les personnes qui sont d'une minorité, alors qu'on leur met une étiquette dessus? On leur donne un nom. On dit qu'elles ne sont pas, elles sont comme nous, mais on leur donne un nom, les minorités. Et moi, c'est ma grande question. Ils sont tous comme nous, sauf qu'on a, comme Lucas a dit, c'est qu'on est tous différents.
Mmh.
Alors on fait tous partie d'une minorité, on va dire.
Et du coup, je pense que si on catégorisait plus les gens comme ça, il y aurait plus de soucis.
Je sais pas vraiment parce qu'on n'y est pas, mais on s'accepterait, je pense, plus. Parce que souvent, les personnes se cachent quand on leur dit qu'ils font partie d'une minorité. Ils se cachent, ils sont réservés et ils ne montrent pas vraiment qui ils sont. Et ça qui est dommage, c'est que souvent, dans les écoles, on leur met un masque. Et ils sont cette personne, alors qu'en vrai, ils ne sont pas comme ça.
Donc, les stéréotypes qu'on a sur un couple de personnes vont faire qu'on va avoir des préjugements lorsqu'on va rencontrer une personne. Si on conserve ces préjugés et qu'on agit en fonction de ça, on va pouvoir avoir des attitudes discriminantes. Les discriminations, elles naissent des préjugés. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est important de punir les insultes? Alors qu'il y a des choses bien plus graves.
Oui, parce qu'il y en a certaines qui peuvent blesser si elles sont basées sur des stéréotypes.
Ouais.
Elles peuvent être impactantes.
Ok.
Oui, non. Oui, parce que effectivement, ça peut blesser les personnes. Mais non, parce qu'il y a... Il y a des choses plus importantes à régler. Il ne faut pas potentiellement mettre en avant des insultes plutôt que des choses qui sont passées et qui sont plus graves que l'insulte.
Okay.
En fait, ça dépend de chaque personne. En fait, moi, je vais plutôt dire que, en fait, je pense qu'on s'en fiche un peu, mais ça, j'ai pas envie de. Comment dire, pour moi, ça va pas être puni par la loi, mais peut-être une personne plus fragile qui va être atteinte par ces mots, enfin, penser qu'elle devrait être jugée.
Ouais. Allez-y.
Ça dépend si c'est des insultes qui sont répétées et du coup c'est un peu du harcèlement. Là, il faut porter plainte, mais si c'est une seule insulte, c'est moins important.
Alors effectivement, le harcèlement, c'est une question de répétition. Je vous définis rapidement le harcèlement, c'est soit répéter une insulte ou une agression sur une personne, soit une, donc c'est une même personne qui répète un acte sur une autre. Soit c'est plusieurs personnes qui répètent un acte sur la même personne. C'est-à-dire que si tout le monde se met à insulter un seul élève, même si vous l'avez fait qu'une seule fois, c'est du harcèlement. Parce que vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Et ne pas parler à une personne, mettre à l'écart une personne, exprès, volontairement, c'est aussi du harcèlement. Insulter une personne, mettre à l'écart une personne, c'est du harcèlement. Ouais. Effectivement, une société idéale n'existe pas. Par contre, ensemble, on peut travailler à une société qui nous rassemble le plus possible.
C'est hyper dur.
C'est hyper dur. Ouais. Ça fait des milliers d'années qu'on essaye. Donc la société dans laquelle vous allez grandir et vous développer et peut-être avoir une vie d'adulte, certaines choses, pour que cette société-là, elle soit la plus bienveillante pour vous. Et c'est ce que chaque génération, normalement, essaye de faire. Le but du jeu, c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Comme quand on développe un jeu vidéo ou quoi, le but du jeu, c'est de s'améliorer au fur et à mesure pour que, on tende vers quelque chose qui nous convienne à tous.
Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on avance. C'est déjà une étape d'avancer. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se montrent vraiment qui ils sont. Et ils n'ont pas honte. Par exemple, nous, dans la rue, on va se dire « Ah, comment il est habillé ?» Mais ce que je trouve très très fort et très très courageux, c'est que ces personnes se montrent, comme je vais le répéter, telles qu'ils sont.
Mmh.
Et c'est une force, c'est... je veux dire, moi je me sens inférieure à cette personne. Parce que cette personne a vraiment montré qui elle était.
Et juste, je voulais appuyer ton point Nathan, que je trouve très intéressant sur les personnes LGBTQIA+. C'est qu'à leurs époques où c'était très marginalisé, En fait, elles ont toujours été là. C'est juste que on n'en parlait pas, mais on en parle plus maintenant. Pour prendre un petit exemple, on a eu un roi de France qui était homosexuel, qui était Henri III. Et je suis sûr qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, parce que on voyait ça, c'était très mal vu. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on en parle des siècles plus tard.
Pour être mieux et pouvoir s'accepter, je suis d'accord avec Milo, savoir qu'on est entouré de bonnes personnes qui sont comme nous, mais pas totalement, savoir qu'on est soutenu et écouté, ça nous permet de se sentir mieux.
Moi, je pense qu'il faut montrer qui on est, faire ce qu'on pense vouloir faire. Et pas sentir le regard des autres.
Moi, je pense qu'il faut les deux. Et il faut s'assumer et il faut avoir des personnes pour nous soutenir.
Et Kenza ?
Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle disait, Pénélope, dans le sens où il faudrait peut-être arrêter de caser les gens, et de les mettre dans des cases, et ça pourrait les aider justement à se sentir plus normaux.
Notre santé mentale peut-elle être impactée par notre appartenance à une minorité ?
J'avais avec moi Lucas, Milo, Mila, Kenza, Cyrine et Pénélope.
Merci de nous avoir écoutés et au revoir.
Bienvenue dans Les Étoiles s'expriment. Aujourd'hui, on donne la parole à des élèves qui réfléchissent au monde qui les entoure. Comme Victor Hugo l'a fait en son temps, il et elle questionnent la société à travers leurs mots. Pour ce débat, trois groupes d'élèves du collège Blanqui, dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, prennent la parole. Trois questions, trois regards croisés sur le monde. Ici, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste des idées, des échanges et des voix qui comptent. Place au débat.
Troisième et dernier sujet, l'humour jusqu'à quel prix ? Avec Gaspard, Iliès, Arsène, Roman et Mounir. Gaspard aime le skate, mais déteste les fruits de mer. Iliès aime les mangas et déteste l'extrémisme. Arsène aime l'humour, déteste l'oppression. Roman aime regarder les séries et déteste le potiron. Et Mounir aime rigoler, mais ne pas être pressé.
Je sais très bien, je me moque pas, je sais très bien que c'est un poème sur le deuil, comme quoi Victor Hugo il a écrit pour sa fille Léopoldine, elle est morte en barque ou je sais pas quoi là. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de mort, je voulais prendre la parole en début de classe, mais apparemment on n'est pas dans une démocratie, bref.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
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 Est-ce que on peut rire de tout d'après vous ?
Pour moi, oui, on pourrait rire d'à peu près tôt, car pour moi, une blague, c'est fait à prendre au second degré, d'où la définition d'une blague, si on veut. Donc, une blague n'a pas à t'atteindre, dans le sens à te toucher personnellement.
Moi, on peut aussi rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui pourraient un peu mal le prendre, et c'est pas le but recherché dans une blague.
Je prends exemple sur certains humoristes, j'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y en a certains qui du coup font des spectacles qui ont des références, qui ont beaucoup de références par rapport à l'humour noir. Et du coup, je pense que en fonction du public, peut-être que l'impact va être différent. Enfin, je sais pas si c'est.
C'était pour ajouter une limite quand même, puisque je m'étais intéressé à l'aspect légal aussi de l'humour, et j'avais vu qu'en fait c'est légal jusqu'au moment où l'humour elle incite à la haine. Donc c'est peut-être une limite aussi à imposer.
Moi, je rejoins un peu Arsène dans le fait de dire que, et Mounir aussi, que tu peux rigoler. Je rejoins un petit peu tout le monde. Tu peux rigoler, t'as des limites, et ça dépend aussi avec qui.
Et est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà été choqué par une blague ?
Non.
Pas vraiment.
Non, pas vraiment. Un petit peu choquante, mais pas traumatisante. Il y avait les guignols avant qui passent à la télé.
Ouais.
C'est de l'humour sur la politique actuelle, mais avec des petites marionnettes. Et ils exagèrent beaucoup les choses. C'était assez traumatisant quand j'étais petit, mais sinon, c'est pas super choquant.
C'était les marionnettes qui étaient traumatisantes ?
Oui, plus que les blagues, mais les blagues n'étaient pas choquantes en soi, en fait.
Et moi, je trouve que certaines blagues ne me choquent pas particulièrement, mais en prenant du recul, je peux un petit peu évaluer à ma manière comment certaines personnes vont le prendre. Et du coup, je sais que ça peut peut-être être blessant pour certaines personnes.
Pour moi, chaque blague devrait être prendre au second degré et ne pas être pris comme elle est, enfin, pas comme elle est, mais plutôt elle n'a pas t'affecter jusqu'à même te traumatiser en fait.
Ouais, mais ça encore, ça, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Certaines personnes peuvent le prendre personnellement et d'autres peuvent avoir du second degré, comme tu le dis, donc ça dépend des personnes.
Ben, c'est ça, c'est, y a une phrase qui dit l'humour n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, un type d'humour, si on veut. Donc, si ce type d'humour n'est pas fait pour toi, qui ne te fait pas rire, ou je ne sais quoi, ben, essaye juste de l'éviter, ou t'as le droit de ne pas rigoler à une blague, en fait. C'est ça que je veux dire.
Mais si ce type d'humour te blesse?
Bah, dans ce sens-là, tu n'as pas... Enfin, comment dire? Bah, n'essaye même pas de calculer cette blague, en fait, si elle te blesse. Tu vas essayer de la faire comme n'importe quel fait qui peut être négatif pour toi. Tu vas essayer de le faire disparaître par autre chose qui est positif.
Et surtout, dire à la personne qui a fait la blague que ça ne lui plaît pas. Enfin, si, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une blague très limite et que je la prends mal, je vais lui dire « Arrête !» Enfin, je le prends très mal.
Moi, je pense quelque chose qu'on pourrait faire, peut-être pour encore revenir sur les humoristes, peut-être faire des spectacles un peu spécialisé dans l'humour noir et d'autres dans l'humour simple, mais évidemment avec des limites, pas des blagues qui peuvent inspirer à la haine ou d'autres choses comme ça, juste des blagues qui vont faire rire un public et voilà.
Oui, non, mais après ça sera un peu compliqué de faire ça en fait, s'adapter à chaque type d'humour si on veut par salle, c'est presque impossible de faire ça quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Moi je voudrais juste revenir sur ce que Mounir il a dit en disant, moi s'il y a quelqu'un qui me fait une blague un peu limite, j'irai voir la personne. Mais du coup, est-ce que cette personne, elle va continuer après? Parce qu'elle sait qu'elle doit pas dire ça avec toi, mais...
Personnellement, je dirais plutôt à la personne, tu peux faire ce genre de blague, mais pas avec des gens qui vont mal le prendre. Comme moi, par exemple. Tu peux faire ce genre de blague, mais avec des personnes qui le prendront bien. Et... si ça les concerne, bien sûr.
Mais comment la personne, elle peut savoir si la personne en face d'elle va bien le prendre ou mal le prendre?
Avant de dire quelque chose sans savoir vraiment si ça va blesser la personne ou pas, peut-être se renseigner un petit peu d'une manière ou d'une autre sur à qui est-ce qu'on va faire la blague, par exemple. Si c'est un de nos amis, forcément, on le connaît au moins un petit peu, donc on sait si ça va le blesser ou pas. Mais par contre, je pense pas que ça serait bien de faire des blagues à des inconnus, parce qu'ils vont peut-être mal le prendre.
Un peu comme tout le monde, je pense que on peut exprimer son avis quand quelqu'un vous fait une blague qui vous blesse. Enfin... il faut qu'on sache dire que ça nous blesse et lui demander de pas recommencer, mais le second degré, c'est bien aussi. Enfin,
si c'est un humoriste qu'on ne connaît pas, je pense avant peut-être de réserver un billet pour son spectacle, peut-être se renseigner un petit peu sur lui. Si jamais on voit qu'il fait des blagues qui nous plaisent pas vraiment, on n'y va pas et voilà, c'est simple.
Donc je rejoins un peu Arsène. Après moi j'ai un exemple à donner sur ça. C'est des humoristes qui en fait s'attaquent directement au premier rang en faisant des blagues sur des personnes qui se trouvent au premier rang. Donc en fait comme le disait Arsène, faut juste se renseigner sur la personne qui va faire les blagues, tout simplement. L'humoriste dans ce cas-là.
Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sur les réseaux et tu peux tomber sur des blagues en voyant un humoriste et la blague peut te blesser.
Après, je trouve que le temps que la blague vienne, tu as le temps soit de scroller, soit de partir de l'application, je trouve.
Il y a ça et aussi peut-être en fonction de notre algorithme. Évidemment, ça ne justifie pas tout, mais peut-être que l'algorithme va faire en sorte qu'on ne tombe pas sur quelque chose comme ça, donc quelque chose qui n'a pas de plaire. Si par exemple, on a un algorithme, enfin, on cherche des choses ou bien on like des vidéos qui... défendent justement les choses comme je sais pas le racisme par exemple et qui dénoncent l'humour noir, ben je pense pas que dans l'algorithme on aura quelque chose qui défendra l'humour noir.
Je pense que pour qu'une blague nous blesse vraiment, faut que ce soit un sujet assez sensible et ça arrive pas super souvent et faudrait qu'aussi les humoristes ils fassent un petit peu attention, mais pas forcément.
En tout cas, j'ai l'impression que vous pensez, là, tous, vous me dites si je me trompe, mais que c'est aux personnes qui regardent les blagues de sélectionner et pas à la personne qui l'a fait de...
Pas forcément. Enfin, si, quand même.
Bah, en fait, pour moi, si, c'est totalement ça. C'est qu'en fait, quand on va reprendre l'exemple d'un sketch, enfin d'un stand-up, si on peut dire ça, la personne qui va acheter le billet doit se renseigner avant sur ce qui va se passer lors du spectacle. C'est comme n'importe quelle chose que tu vas payer à l'avance. Imaginons un billet pour un cirque ou je ne sais quoi, tu vas te renseigner avant sur ça.
Et ça, moi, je suis à la fois d'accord, à la fois non. Je prends exemple sur un humoriste qui est assez connu, Jarry, je pense que tout le monde le connaît ici. Oui. C'est une personne qui est LGBT, qui justement en rigole du fait qu'elle soit LGBT, qui rigole un peu de tout. Mais par exemple, quand du coup Jarry remarque un petit peu que dans son public il a des personnes qui paraissent un peu plus refermées et tout ça, il a beau aller leur parler, il ne va pas forcément faire des blagues par rapport à eux. Enfin, de blagues qui vont être blessantes à son échelle, je dirais.
Pour moi, comme je peux le dire, en fait, on peut rigoler de à peu près, pas même pas à peu près tout, en fait, on peut rigoler de tout, en fait. Une blague peut parler de racisme, comme elle peut parler d'autres choses, en fait.
Tant qu'une blague en est une, moi, je pense qu'on peut parler de tout parce que c'est du second degré et que faut pas forcément le prendre personnellement ou que ce soit blessant.
Je suis totalement d'accord avec mon camarade. Pour moi, une blague, aussi violente soit-elle pour une certaine catégorie, elle n'a pas pour but de blesser si c'est une blague. Si c'est pas une blague...
Je dirais que il n'y a pas vraiment de sujet qui soit interdit ou non. Juste une blague qui pourrait attiser à la haine ou bien à la violence, je pense pas que ça soit vraiment... Enfin, je pense pas que ça devrait être même légal.
Je pense que ce qui importe pendant une blague, enfin pour une blague, c'est pas forcément le sujet, mais plutôt le but. Si elle incite à la haine ou si elle vise plutôt à nous faire, à nous remettre en question, pardon.
Après, je trouve que c'est pas très efficace de, imaginons, une personne ne va pas faire une blague pour inciter à la haine, elle va plutôt utiliser d'autres procédés comme le dialogue ou je ne sais quoi. C'est même très rare même presque impossible qu'une personne utilise une blague pour juste vouloir donner de la haine aux gens.
Pourtant, il y a des humoristes qui ont été condamnés.
Oui, donc voilà, c'est ce que je dis, c'est les cas à part. Mais comme je le dis, c'est que en fait, même si ces personnes ont été condamnées, donc c'est la loi, donc voilà. Mais je trouve je rejoins un peu mes propos d'avant, mais pour moi, on peut rigoler une blague, enfin, on peut rigoler de tout dans ce cas-là, même si. Celle-ci incite à la haine, c'est ça, c'est prendre la chose au second degré, en fait, ne pas la prendre au premier degré, ne pas vouloir se dire que la personne fait cette blague pour me blesser, en fait.
Moi, je suis d'accord avec tout le monde, avec ce que Gaspard, il a dit, et aussi avec Iliès, sur le fait que tant que la blague, elle incite pas à la haine, ou ça, ou ce genre de choses, du coup, il faut la prendre au second degré.
Alors, Iliès, si tu me dis si je me trompe, mais pour moi, tu disais que même si elle incite à la haine... il faut la prendre comme une blague.
En fait, faut pas la prendre comme une blague, faut surtout la prendre au second degré et ne pas dire il a fait cette blague pour me blesser, en fait, ou sinon toutes les blagues seraient des blagues pour la haine, en fait.
Et moi, j'aimerais rebondir sur ce que Roman elle a dit. Je viens de penser à une référence que j'ai vue sur une des vidéos, du coup, en scrollant sur TikTok. C'est un influenceur que je pense vous connaissez, c'est La Menace qui a voulu faire une blague par rapport aux homosexuels, qui a dit que le matcha était une boisson homosexuelle. Donc je pense que moi c'est un peu violent peut-être de dire ça comme ça, genre et c'est une blague qui pourrait inciter à la haine, je trouve.
Après, je trouve que comme on est sur TikTok, en fait tout le monde essaye d'attirer l'attention d'un peu de tout le monde, donc en fait s'il a fait cette blague pour vouloir critiquer des personnes, je trouve qu'il cherchait surtout de l'attention vis-à-vis de des utilisateurs de TikTok.
Une possibilité.
Mais est-ce que ça justifie?
C'est comme chercher de l'attention, en fait. De l'attention, c'est en fait... On peut chercher de l'attention avec n'importe quel procédé, mais certains procédés sont vraiment très très méchants, si on veut.
Je trouve ça surprenant de sa part, parce qu'il est plutôt très connu, et du coup, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait dit ça, à part pour chercher de l'attention et de la polémique.
Enfin, La Menace, il est assez extrémiste quand même.
Oui, c'est vrai, il est assez extrémiste.
Il a lâché beaucoup de propos, je n'ai pas toutes les références, mais... Enfin...
Après, c'est ça, c'est chercher l'attention sur TikTok. En fait, c'est la rémunération directement sur TikTok. C'est si les personnes vont rester longtemps sur ta vidéo, donc une vidéo qui va faire polémique, là, dans ce cas-là, c'est pour... Je suppose que pour lui, c'est surtout un gain d'argent, pardon.
Oui, c'est vrai, c'est très extrémiste, et je pense que il aurait sa vidéo, pas vraiment son compte, mais plus sa vidéo aurait dû se faire restreindre, se faire censurer, parce que je trouve ça pas assez quand même
je sais pas comment t'expliquer, mais il aurait pu essayer de trouver peut-être un autre moyen plutôt que celui-là d'attirer l'attention, si je peux dire ça comme ça. Même si je pense que il a dû imaginer que peut-être que dire quelque chose qui pourrait être limite, ça pourrait du coup faire du buzz un petit peu et lui donner faire un gain d'argent. On doit censurer l'humour qui attise la haine. Donc lui, il a fait une blague qui pourrait attiser à la haine un petit peu.
D'après moi, puisque j'ai la référence de la vidéo, c'était pas une blague. Enfin, il disait pas forcément premier degré, mais.
Du coup, là, on est sur autre chose. Ah, si c'est plus de l'humour.
Je pense que c'était pas trop de l'humour. Enfin,
on est un peu sur un.
Et du coup, comment savoir si c'est de l'humour ou pas de l'humour? Puisque là,
c'est assez compliqué.
Cinq autour de la table.
Il a utilisé un peu une métaphore pas vraiment sa blague, mais du coup pour ce qu'il a dit plus précisément. Et certaines personnes pourraient le prendre comme une blague. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être une blague, mais du coup qui a attisé la haine.
Je pense plutôt que c'est un jugement qui est tellement choquant qu'il fait un peu rire, parce que ce qui est choquant fait rire quand même. Enfin, c'est un jugement puisqu'il dit, je crois, cette boisson de merde et d'homosexuel ou quelque chose comme ça.
Oui.
Et enfin, il juge beaucoup dans la vidéo. Il utilise.
C'est juste qu'il associe un objet à une catégorie de personnes. Enfin.
Une minorité. On en a parlé tout à l'heure avec.
Une minorité. Je trouve ça assez révoltant, surtout. Que ce soit une blague ou pas, je pense pas que ce soit une blague parce que j'ai la référence de la vidéo, mais oui, je trouve ça assez choquant et à la limite censurer voire même classer la vidéo. Enfin, je sais pas si vous savez, il y a une espèce de restriction aux plus de 18 ans. Mais même aux plus de 18 ans, en fait, c'est un peu choquant et révoltant.
Moi, je trouve ça dommage que, alors j'ai pas la référence de la vidéo, mais si c'est une blague ou pas. Que les gens soient obligés de faire ça ou de dire ça pour attirer l'attention et faire du buzz sur les réseaux sociaux.
Après, type d'humour, un type de contenu même, si on peut dire ça comme ça. Donc, elle va plutôt, je pense que lorsqu'il va, comme je dis, en fait, en cherchant cette attention, pour lui, c'est un gain d'argent. Et même pas, en fait, pour lui, il voit que ce genre de contenu marche, en fait, je me mets à sa place, je comprends pas pourquoi, en fait, il devrait arrêter, c'est qu'en fait, ça trouve son type de personne, en fait, même si celle-ci est...
Même si c'est pas de l'humour et que c'est juste des insultes, et du coup,
Bah oui,
de
c'est
l'homophobie, en l'occurrence.
Oui, c'est de l'homophobie, là, très clairement, sauf que...
Donc c'est puni par la loi.
C'est puni par la loi, tout ça, j'en suis conscient. Mais, dans un sens... Si ça trouve son type de public, c'est que ça veut dire que beaucoup de personnes réfléchissent comme ça. Donc en fait,
toutes les insultes que vous pouvez faire ou recevoir sur les réseaux ou recevoir, les réseaux sociaux c'est public, ça compte comme l'espace public. Donc c'est plus sévèrement puni que si c'était par un message, par SMS. Si jamais l'insulte que je sors, c'est sale PD. Là, on est sur une insulte à caractère discriminatoire. Donc, c'est encore plus méchant que nous.
Depuis tout à l'heure, je suis d'accord, c'est pas une question d'opinion dont on parle depuis tout à l'heure, c'est juste une question de respect. Les gens, si les gens critiquent pas, ils peuvent avoir leur avis, ils sont pas obligés de critiquer parce qu'ils respectent. C'est juste ça, les gars.
C'est mentir aux autres.
Mentir, tu peux donner ton avis.
Moi, je prends plutôt exemple sur moi. Je pense que je vais plutôt cibler les personnes à qui je vais faire la blague. Si par exemple c'est mes amis, mes amis évidemment qui sont très proches, que je les connais, je vais pas vraiment mettre de limite parce que je sais qu'ils vont pas mal le prendre. Par contre, si c'est à quelqu'un que je connais pas, que je sais pas dans un petit peu dans le contexte, je fais une blague, je vais évidemment mettre une limite. Je vais pas faire en sorte que la personne apprenne mal puisque je ne la connais pas.
Donc tu t'adaptes à ton type de public, c'est ça?
Oui.
Ok. Enfin oui, enfin non, vraiment pas vraiment. Je mets vraiment pas de limite, mais je vais pas faire une blague si vraiment elle va attiser la haine, quoi. Mais je vais pas me priver de faire une blague sur quelque chose, sur un sujet, si on veut, de politique, de guerre ou je ne sais quoi. Mais je vais pas faire cette blague pour essayer de traumatiser une personne.
De blesser. Mais si elle blesse, c'est comme ça.
Si elle blesse, c'est comme ça, c'est la vie.
En fait, c'est un peu le même fonctionnement qu'Arsène. Si je connais, je peux aller très loin. Par contre, si je ne les connais pas, je
je me restreins un peu, je m'adapte à mon public parce que je la connais pas et je fais une blague qui la blesse. Bah, déjà la relation elle est très bien partie. Hein. Bah, c'était pas mon but premier de blesser donc.
Moi je suis d'accord avec Arsène et Mounir dans le fait de si je connais par exemple avec mon entourage, je connais les personnes donc je vais pas forcément me mettre de limites. Par contre, si je connais pas la personne, je vais m'en mettre forcément parce que j'ai pas envie qu'elle pense que derrière mes blagues, il y ait des que j'en pense vraiment en fait.
Moi, je pense que ce qui compte, c'est surtout aussi l'intention derrière la blague. Comme je disais tout à l'heure, le but et l'intention, c'est assez similaire. Enfin, c'est ce que la personne cherche à faire en faisant cette blague.
J'avais avec moi du coup Gaspard, Iliès, Arsène, Roman et Mounir, qui ont tenté de répondre à cette dernière question du jour.
L'humour, jusqu'à quel prix ? C'était les élèves du groupe Cordée de la Réussite 2026 du Collège Blanqui, avec en présence dans le public leurs professeurs Muriel et Florence, que je tiens particulièrement à remercier.
Ok, merci beaucoup. Ça va ?
Ça va ?
Ouais, c'est bon. C'est trop bien.
On s'est pas lancé au début, et alors que j'avais plein de choses à dire, mais je m'en suis pas lancée.
J'avais l'impression d'être dans un live Twitch avec elle.
C'est que j'avais plein de choses à dire.